Chapitre 85. Ne restez pas à pleurer autour de mon cercueil, je ne m'y trouve, je ne dors pas. Je suis un millier de vents qui soufflent. Ma liste pour Nono est terminée. Cette année, comme les précédentes, c'est lui qui va me remplacer. Lui qui va prendre le relais pour arroser les fleurs sur les tombes des familles parties en vacances. Elvis, lui, s'occupera des lianes et des chats. C'est le père Cédric qui veillera au potager et aux fleurs du jardin. Je lui ai confié la fiche écrite de la main de Sacha. Il en a rédigé une par mois. Août. Priorité du mois, arrosage. Il faut arroser le soir parce que tu as la fraîcheur toute la nuit, mais surtout pas trop tôt. Sinon, la terre est encore chaude et l'eau s'évapore tout de suite. Alors, arroser trop tôt, ce serait comme pisser dans un violon. Il faut arroser à la tombée de la nuit avec un arrosoir. Utilisez l'eau du puits ou l'eau de pluie récupérée. L'arrosoir est plus doux que le jet. Si tu arroses au jet, tu tasses la terre et elle ne respire plus. Il faut que la terre respire. C'est pour cela que de temps en temps, au pied des plants, précautionneusement, tu grattes avec un crochet pour l'aérer. Ramasse les légumes mûrs. Les tomates peuvent attendre quelques jours. Les aubergines, tous les 3 jours, sinon elles grossissent et durcissent. Les haricots, tous les jours, et à consommer de suite. Soit les faire en conserve, soit les congeler après les avoir équeutés, soit les donner autour de soi. Idem pour le reste. N'oublie pas qu'on cultive pour partager, sinon aucun intérêt. Le père Cédric ne sera pas tout seul pour s'occuper du potager. Depuis le démantèlement de la jungle de Calais, des familles soudanaises sont hébergées dans le château de Chardonnay. Il s'y rend 3 fois par semaine pour aider les bénévoles. Un jeune couple, Kamal et Anita, âgés de 19 ans, attend un bébé. Le père Cédric a obtenu une autorisation de la préfecture pour les accueillir chez lui. Il va essayer de les protéger le plus longtemps possible après la naissance de l'enfant. Le temps qu'ils reprennent des études, obtiennent un diplôme et surtout un droit de séjour permanent. Cette situation est précaire. Le père Cédric dit qu'il vit sur une poudrière, mais qu'il est dans une fragilité qu'il salue, et que pour le temps que cela durera, il prendra cette joie-là, celle de partager son quotidien avec une famille d'adoption. Que cela dure 1 mois ou 10 ans, il l'aura vécu. Tout est éphémère, Violette. Nous sommes des passagers. Seul l'amour de Dieu reste fixé en toutes choses. Depuis qu'ils vivent à la cure, Kamal et Anita passent par ma cuisine chaque jour, et contrairement aux autres, eux restent plus longtemps. Anita est folle d'amour pour Eliane, et Kamal pour mon potager. Ils passent des heures à déchiffrer les fiches de Sacha et mes catalogues de chez Willem et Jardin, quand il ne me donne pas un coup de main. Il est très doué. La première fois que je lui ai dit qu'il avait la main verte, il n'a pas compris et m'a répondu désarçonné « Mais Violette, je suis noire ». J'ai donné ma méthode d'apprentissage de la lecture Bauchère, la journée des tout-petits, à Anita. Elle me la lit à voix haute et quand elle se trompe, bute sur un mot, je la reprends sans même regarder les pages puisque je le connais par cœur. Quand Anita a ouvert le livre pour la première fois, elle m'a demandé s'il était à mon enfant. Je lui ai répondu par une question « Est-ce que je peux toucher ton ventre ?» Elle m'a répondu « Oui, fais. » J'ai posé mes 2 mains à plat sur le coton de sa robe. Anita s'est mise à rire parce que je la chatouillais. Le bébé m'a donné des coups de pied. Anita m'a dit qu'il riait lui aussi. Nous avons donc ri tous les 3 dans ma cuisine. Si quelqu'un meurt, qu'il y a un enterrement à organiser, c'est Jacques Luccini qui me remplacera. Comme il fallait que je donne quelque chose à faire à Gaston pendant mon absence, je lui ai demandé de ramasser mon courrier et de le ranger sur l'étagère qui se trouve à côté du téléphone. J'ai la quasi-certitude qu'il ne pourra pas casser une de mes lettres. Depuis mon lit, j'observe ma valise encore ouverte qui est posée sur ma commode. Je la finirai demain. J'emporte toujours trop de choses à Marseille. Je ne porte presque rien quand je suis au cabanon. Il y a trop de « au cas où » dans mon bagage. La première fois que j'ai vu cette valise, c'était en 1998. Philippe Toussaint était parti pour toujours, mais je l'ignorais encore. Quatre jours plus tôt, il m'avait embrassé en soufflant « à tout à l'heure ». Il devait questionner Héloïse Petit, la deuxième monitrice, la seule à laquelle il n'avait pas parlé. Il m'avait dit « après j'arrête, après on change de vie, j'en peux plus de tout ça, les tombes, on ira vivre dans le midi ». Il a changé de vie tout seul. Le jour d'Héloïse Petit, il a bifurqué. Au lieu d'aller la voir, il a pris la direction de Bron pour retrouver Françoise Pelletier. Quatre jours que j'étais seule. J'étais agenouillée au fond du potager, le nez dans les feuilles de capucine que j'avais accrochées à des tuteurs en bambou. Comme à chaque fois que Philippe Toussaint était absent, les chats s'étaient rapprochés de la maison. Ils jouaient à cache-cache autour de moi. Ils piquaient des sprints ensemble. L'un d'entre eux a fini par renverser une bassine remplie d'eau. Ils ont tous sursauté et se sont rentrés dedans dans la panique. J'ai été prise d'un fou rire. J'ai entendu une voix familière me dire depuis la porte de la maison « C'est bon de t'entendre rire toute seule. » J'ai cru que j'hallucinais, que le vent dans les arbres me jouait un mauvais tour. J'ai levé les yeux et j'ai vu la valise posée sur la table, sous la tonnelle. Elle était bleue comme la Méditerranée les jours de grand soleil. Sacha se tenait debout devant la porte. Je me suis approchée de lui et j'ai caressé son visage parce que je n'y croyais plus. Je pensais qu'il m'avait oubliée. Je le lui ai dit, je pensais que vous m'aviez abandonnée. Jamais, tu m'entends Violette, jamais je ne t'abandonnerai. Il m'a raconté ses premiers mois de retraite en vrac. Il était allé chez Sani, son presque frère, dans le sud de l'Inde. À Chartres, à Besançon, en Sicile et à Toulouse, il avait visité des palais, des églises, des monastères, des rues, d'autres cimetières. Il avait nagé dans des lacs, des rivières et des mers, soigné des dos en compote, des chevilles blessées et des brûlures superficielles. Il revenait de Marseille où il avait fait des jardinières de plantes aromatiques à Célia. Il voulait m'embrasser avant d'aller à Valence pour se recueillir sur les tombes de Verena, Émile et Ninon, sa femme et ses enfants en terre là-bas. Après, il repartirait en Inde, auprès de Sani. Il venait de déposer ses affaires chez Madame Bréant. Il allait rester deux ou trois nuits chez elle, le temps d'aller voir le maire, Nono, Elvis, les chats et les autres. Cette valise bleue était pour moi. Elle était remplie de cadeaux. Thé, encens, foulards, tissus, bijoux, miel, huile d'olive, savon de Marseille, bougies, amulettes, livres, 33 tours de Bac, graines de fleurs de tournesol. Partout où Sacha était passé, il m'avait acheté un souvenir. Je t'ai rapporté une empreinte par voyage.
La valise aussi?
Bien sûr, toi aussi un jour tu partiras. Il a fait le tour du jardin, les larmes aux yeux. Il a dit « L'élève a dépassé le maître. J'étais sûre que tu y arriverais. » Nous avons déjeuné ensemble. À chaque fois que j'entendais un moteur au loin, je pensais que c'était peut-être Philippe Toussaint qui revenait. Et puis non. 19 ans après, c'est un autre homme que je me surprends à attendre. Le matin, quand j'ouvre les grilles, je cherche sa voiture sur le parking. Parfois, dans les allées, quand j'entends des pas derrière moi, je me retourne en pensant « il est là, il est revenu ». Hier soir, j'ai cru que quelqu'un frappait à ma porte côté rue. Je suis descendue, mais il n'y avait personne. Pourtant, la dernière fois que Julien a fait claquer sa portière et qu'il m'a dit « à un de ces jours », exactement comme s'il me disait adieu, je n'ai rien fait pour le retenir. Je lui ai souri et d'un air assuré, j'ai répondu « oui, bon retour ». Exactement comme si je lui disais « c'est mieux comme ça ». Quand Nathan et Valentin m'ont fait un signe de la main à l'arrière de la voiture, j'ai su que je ne les reverrai pas. Depuis ce matin-là, Julien m'a envoyé un seul signe de vie. Une carte postale de Barcelone pour me dire que Nathan et lui passeraient les deux mois d'été là-bas et que la mère de Nathan les rejoindrait de temps en temps. La rencontre entre Irène et Gabriel aura servi à Julien et à la mère de Nathan. J'ai été un pont, un passage entre eux. Il fallait que Julien passe par moi pour comprendre qu'il ne pouvait pas perdre la mère de son enfant. Et grâce à Julien, je sais que je peux encore faire l'amour, que je peux être désirée. C'est déjà pas si mal.